J'ai rencontré Simon alors qu'il commençait tout juste en photographie. Poli, un peu gêné, mais en même temps fonceur. Il a d'ailleurs créé l'un des premiers blogs de photographie au Québec. À l'époque, comme il dit, c'est-à-dire voilà 10 ans. Son sens de la débrouillardise, un état de fait pour sa génération selon lui, son excellente compréhension des éléments techniques, de belles rencontres sur son chemin et bien entendu son grand talent l'ont amené là où il est maintenant. On jase passé, présent et futur avec Simon Duhamel. Bon podcast!
Salut Simon, c'est Normand.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Ben oui, très bien.
Hey, on va se réchauffer parce que, en fait, je pense que je t'ai vu une ou deux fois dans le temps de Pizza for All, puis dans le temps que Seb Caillé, puis moi, on partageait les mêmes locaux.
Ben fond, oui, mon background, je viens pas d'une famille d'artistes du tout. Chez nous, mon père était bon en maths, fait que moi, j'ai bien aimé les maths.
OK. Fait
que j'étais bon à l'école. Fait que, à partir de là, tu sais que je pensais que tout était relié dans la vie parce que j'étais bon en maths, j'étais dans l'administration au cégep. Fait que j'ai fait mon bac en administration. J'étais accepté aux études commerciales. Puis là, j'ai comme réalisé que c'était peut-être pas ça pour moi. Même avant d'aller à Édouard en administration, puis j'étais allé à Fannier College. Puis dans ma tête, j'avais vu le film Wall Street. Je sais pas si tu dis quelque chose, là.
Oui.
Avec Michael Douglas. Charlie Sheen. Puis dans ma tête, j'allais aller en finance, j'allais aller aux États-Unis. Je voulais faire partie d'une grande université américaine. C'était comme mon rêve d'adolescent, là.
OK.
Dans les sororities, tout ça. Fait que j'étais allé à Vanier. Dans ma tête, c'était ma porte pour après avoir un scholarship pour aller aux États-Unis. J'ai fait une journée à Vanier. Tout le monde faisait, arrivait en auto. Puis moi, je me reconnaissais tellement pas dans ce monde-là. Après un jour, j'ai essayé de retourner à Édouard. Sauf que j'avais pas fait mes choix de cours. Fait que j'étais refusé. Fait que j'étais comme un premier de classe qui s'est ramassé, qui peut pas aller au cégep. Fait que j'ai travaillé au McDo pendant une session avant de rentrer à l'hiver. Ça explique un peu des fois comment je prends mes décisions de vie, là. Au début, j'ai repris une sabbatique parce que je me voyais pas là-dedans. Et c'est là que je suis allé en cinéma. J'ai fait un an d'une majeure.
OK. Ta majeure, tu l'as faite à Montréal?
Oui, je l'ai faite à l'IBM.
Ah, moi aussi, j'ai fait ça.
Ah oui?
Oui.
On montait en Steinbeck, là?
Oui, oui. En fumant les Gauloises parce qu'on avait le droit de fumer, moi, dans mon temps.
Ah oui, c'est boy. Puis après, je me suis équipé pour pouvoir faire du montage, pouvoir tourner moi-même, faire indépendant. Mais comme je me ramassais tout seul, puis que j'avais plus d'équipe, j'étais quand même gêné, ça a donné que j'ai essayé d'aller faire un film de snow dans l'Ouest canadien, si ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai pris beaucoup de photos, puis à mon retour, c'est là que je me suis inscrit en photo à Dawson. J'avais 23 ans. Je travaillais dans une banque pendant ce temps, j'étais à la Banque nationale au service clientèle pour Mastercard. Puis le jour de ma graduation, j'ai remis ma démission, puis c'est là que j'ai commencé en photo. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Mais c'est juste drôle, parce que j'aurais jamais pensé finir dans un domaine artistique, là. Même si ça a pris beaucoup de temps avant. C'était pas le monde d'art, j'étais un artiste, j'avais beaucoup de misère avec ça parce que je trouvais que j'étais plus un technicien, c'était quelqu'un qui comprenait bien la technique, la lumière. C'est pour ça que la pub m'intéressait beaucoup parce qu'avec la pub, j'arrivais avec des gens qui avaient déjà des idées, puis moi, j'étais en mesure de les accomplir. Fait que c'est un peu parti de là, ma carrière. Donc.
Mais fondamentalement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ouais, la photo, c'est vraiment cool pour moi? C'est-tu arrivé? Progressivement, ou ça a été à un moment donné un flash qui fait comme taram, fuck les maths, ça, je vais aller calculer les stops à place?
Ben, c'est arrivé parce que j'avais des amis qui étaient en cinéma.
OK.
Puis, quand il y avait des projets, moi, à ce moment-là, j'étais en sabbatique, je travaillais dans un café au second Arista. Fait que souvent, quand eux avaient des projets, moi, j'avais du temps. Fait que j'allais souvent participer au brainstorm, au tournage, mais c'était des tournages avec Diane, le cégep.
Ah ouais.
Mais, souvent, quand ils étaient dans le brainstorm, je participais, puis j'avais des idées. Moi, une de mes forces en général, c'est là encore, c'est d'amener une valeur ajoutée. C'est pas tout le temps moi qui ai l'idée de base ou l'idée originale, mais une fois que l'idée est là, de l'améliorer, de trouver des façons de la construire. Puis dans ces conversations-là, souvent j'arrivais puis j'amenais des idées, puis les gars me disaient hey, t'es bon, tu devrais t'inscrire, tu devrais être enseignant avec nous autres. Pour moi, c'est pas une possibilité, mais je me rendais compte que ce qu'on faisait, ça marchait, puis pour le niveau où on était. Là. Et c'est là que je me suis donné une chance puis je me suis inscrit en cinéma, mais c'était comme quand même un gros saut. Ce qui m'a reconnecté avec ce que je connaissais, c'était la technique. Parce que ce soit exposé du film, la photo ou caméra vidéo à l'époque, caméra film à l'époque, c'était quand même c'était de la science, c'était des relations mathématiques entre la lumière, la distance. Tout ça redevenait technique. Ça redevenait des maths, ça redevenait des problèmes à résoudre. Je pense que quand même considéré comme un problem solver. Ça arrive souvent qu'on arrive à quelque chose qu'on a le goût de faire, qu'on ne sait pas comment.
Okay.
Et à partir de là, on me l'expose. Puis moi, mon travail, c'est de trouver une solution. Soit que je le fais ou je m'entoure des bonnes personnes, mais on trouve une façon de faire quand, à la base, ça a l'air impossible ou on n'a pas vraiment une claire idée de comment y arriver.
Mm-hmm. As-tu un exemple concret d'un projet mongol que tu as craqué et qui a bien fonctionné?
Oui, bien, je t'en ai deux bien différents. Il y en a un qui est en photo. Dans le fond, c'était mon premier pitch que j'ai fait pour la SAQ avec Sylvie.
Mm-hmm.
Puis dans ce temps-là, j'étais considéré un peu plus comme un photographe junior. Mm-hmm. Il y avait deux équipes qui pitchaient. Puis il y avait une équipe qui était considérée comme senior, mais c'est un photographe de Toronto qui est super gros. Là. Okay. Puis j'étais sûr qu'il peut faire la job. Puis il y avait une autre équipe qui était moins connue. Puis quand on est allé au pitch, je me rappelle, ils nous ont posé une question sur. Ils nous ont présenté des maquettes live, des choses qu'on n'avait jamais vues, qui nous ont mis devant les yeux. Puis là, on était une table qui devait avoir une dizaine de personnes. C'était un peu impressionnant quand même là, de devoir répondre aussi rapidement.
Oui.
J'étais avec Gabriel Carbonneau chez Visual Box. On était ensemble au pitch parce que c'était beaucoup de montage qu'on devait faire. Puis quand ils nous ont posé la question, on nous présentait les nouvelles maquettes.
Mm-hmm.
Puis à ce moment-là, mon réflexe, ça a été de dire une piste, mais en leur disant, écoute, il va falloir qu'on y pense. Là. On ne peut pas juste donner une réponse comme ça.
Mm-hmm.
Puis au début, moi, je croyais que c'était vu comme un signe de faiblesse. Puis quand on a fait la job, au dernier jour de show, il y a un gars qui nous a dit, pourquoi tu l'as eu? Puis à ce moment-là, je dis non. Puis il dit, ben, c'est parce que vous avez justement montré que vous n'avez pas bullshité, que vous étiez capable de le faire, peu importe. Vous avez montré que vous étiez déjà en train de réfléchir à comment le faire pour vrai.
Mm-hmm.
Je dis, ah ouais, OK. Parce que moi, je percevais comme un signe de faiblesse, puis on perçoit comme une force. Le projet, ce qui s'est fait, c'était pour la campagne Sortez vos verres de la SAQ, où c'était comme un montage qui avait autant de la nourriture que de l'alcool, avec des effets de perspective, que les verres, des fois, ils étaient en angle. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, ça ne joue pas nécessairement à un clic, c'est impossible. Fait qu'il fallait faire des photos montage. Puis comme la nourriture, ça a une durée de vie. Tu sais, fallait qu'on fasse des choses en étapes. Fait qu'on pouvait avoir autant des grillades, qu'on pouvait avoir de la salade, des légumes, qu'on pouvait avoir des verres de vin, des verres de bière. Ça ne s'éclaire pas de la même façon non plus.
Mm-hmm.
Fait que nous, ce qu'on a proposé, c'était de tout découper. Puis à l'époque, c'est un peu plus commun maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de programmes en photo qui permettaient de voir à travers la caméra ce qu'on appelle un live view, là, de voir en temps réel ce que la caméra voit,
oui,
dans la perspective de la lentille. Fait que nous, on utilisait un programme de stop motion qui nous permettait de faire ça, parce qu'en stop motion, tu vois souvent la photo que tu as prise en transparence par rapport à la photo que tu vas prendre pour voir comment l'animation se décline.
Mm-hmm.
Et moi, je me servais de ce programme d'animation comme ça pour faire de l'alignement et du positionnement d'image dans ma technique, disons. C'est un système que j'avais développé à l'époque. Et au final, c'est un peu drôle parce que les clients avaient eu une critique envers l'agence puis ils leur disaient « Mais c'est vraiment pareil comme les maquettes. » Puis là, l'agence était comme « Mais c'est d'habitude, tout le monde chiale que c'est pas assez proche des maquettes. » Puis là, on avait la critique inverse et c'était comme « Parfait. » Fait que c'est comme... tout le monde était content, justement, d'avoir réussi à le faire. Puis sinon, dans d'autres projets, dans le même titre que c'est des défis, ben c'était des projets avec Simon Baudry chez Boss. Moi, mes premiers projets de haut niveau, ça a été avec lui. Autant pour des couvertures d'Urbania. C'était comme un cover de magazine, mais qui était approché avec le même niveau de difficulté qu'une pub.
Ouais.
Puis avec lui, on avait fait un site web pour Slush à l'époque. En une journée, on avait shooté autant des animations qui devenaient des jeux. C'était comme des séquences de photos où on prévoyait tous les positionnements possibles pour un personnage qui devenait un personnage de jeu.
Okay.
Maintenant, on peut facilement transposer un visage à vieillir, des choses comme ça, mais à l'époque, ça commençait puis c'était pas encore photoréaliste. Puis on voulait pouvoir que les gens uploadent leurs photos puis appliquer justement des systèmes de vieillissement, puis qu'on a photographié des personnes âgées, on a photographié des gens avec des coupes de cheveux spéciales, des accessoires, puis au final, c'était un jeu où, quand tu gagnais des étapes, t'avais une barbe qui grossissait avec ton visage, mais à la base, tu pouvais personnaliser ton personnage.
Okay.
Et les gens ont joué beaucoup à ce jeu, ça a été un bon succès, mais à la base, quand ils sont arrivés, OK, il faut faire des personnages photoréalistes qui peuvent se customiser puis avoir une multitude de personnages avec une multitude d'étapes. C'était comme, OK, comment on va faire ça? Puis tout ça, c'est parti du défi de Simon. Puis on a réussi à le faire, mais à la base, personne n'avait de réponse à la première.
Toi, est-ce que tu vois la vie en layer?
Oui, c'est exactement ça. Puis ça a commencé avec la photo. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des designers graphiques en début de carrière. Virginie Vallée, Karim Zaxa, Gabriel Poirier-Galarneau. après avec le stop motion, puis après avec la vidéo. Fait que je fasse la réalisation de l'écran photo ou de la photo, souvent tout est pensé en fonction de construction d'image. Tu sais. Mm-hmm. Fait que ça arrive souvent que je vais partir d'une image de background dans laquelle on va intégrer des personnages, ou si on est dans un vrai décor, bon, on va photographier le décor, puis après on va photographier ou filmer des options qui peuvent après justement s'intégrer en layer. Fait que c'est vraiment souvent comme ça que j'approche mes projets, parce que ça permet de faire des choses impossibles. Puis des fois, au début, c'est peut-être né un peu aussi d'une nécessité. Là. Quand je sortais d'école, je travaillais pour un photographe qui faisait de l'objet, de la nourriture. C'était très technique. Puis eux, à l'époque, ils faisaient toute une caméra. Ils shootaient en 4x5 sur du film, même sur de la diapo. Puis tout devait être parfait, mais ils faisaient deux shots dans une journée. Mm-hmm. Et moi, quand j'ai commencé, ben, on m'en demandait 8-10 déjà. Fait que c'est impossible de pouvoir tout faire à une certaine qualité dans les délais. Mm-hmm. Fait que souvent, ce que je faisais pour contourner ça, c'est si je savais que j'avais besoin de 2-3 qualités de lumière, mais que pour placer une lumière, ça me prendrait 2 heures pour le faire en un clic, ben, j'allais chercher mes 3 qualités sur 3 shots. Puis après, en retouche, c'est là que j'allais placer ma lumière pour le faire. Fait que ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. Notre génération a eu moins le choix, disons. On devait être plus performant plus vite. Parce que les budgets changeaient déjà, puis la quantité d'images était déjà plus importante pour une journée de travail. Mm-hmm. Puis ça n'a jamais arrêté. C'est encore pire maintenant.
Fait que toi, t'es arrivé juste au moment où ça shiftait, tout ça.
Oui. Nous, notre cohorte à Dawson, on a gradué en 2017. Puis on était la dernière cohorte qui apprenait en film la première année, faisait la transition au numérique. Puis après nous, tout le monde était juste numérique seulement. Ouais. Il n'y avait plus de cours de noir et blanc, on n'apprenait pas en film. Fait qu'à l'époque, ça commençait, mais les photographes étaient encore dans cette transition-là. Ils commençaient à s'acheter leur premier appareil numérique, mais ils travaillaient encore de façon photo.
Ouais.
Fait que moi, quand j'ai commencé, je travaillais avec ce photographe-là, puis il travaillait souvent à main levée. Dans certaines situations, j'étais comme, mais, tu travailles sur le trépied, tu pourrais me faire 2-3 photos, puis moi, en retouche, je pourrais t'arranger ça tout de suite, mais là, de la façon que tu travailles, ça va être beaucoup plus compliqué. Fait que, on avait déjà cette conscience-là de penser pour le numérique, là, puis penser pour l'efficacité, parce qu'on n'avait pas le choix.
Puis toi, quand tu as commencé à rencontrer des agences pour faire des projets, j'imagine que là aussi, les DA, il devait y en avoir une partie qui était demandée sur l'ancienne façon de faire. C'était-tu un argument de vente, le fait de travailler autrement, ou c'était comme « Oh boy, j'ai besoin d'expliquer ça comme il faut parce qu'ils comprennent rien, eux autres, l'autre bord. »
Je pense que la retouche était déjà présente, même qui était plus évidente que maintenant, tu sais. Il y a eu beaucoup de tendances très illustratives en photo. C'était tellement poussé que la résolution des caméras n'était pas la même que maintenant. Mm-hmm. Fait que tu avais moins de détails. Fait que la retouche pouvait vite virer. Ça pouvait faire un cartoon un peu rapidement. Ça en faisait trop. Puis moi, ça n'a pas été un si grave problème, parce qu'eux ne se rendaient pas compte nécessairement de comment je travaillais.
Mm-hmm.
Eux, ce qu'ils voyaient, c'était le résultat de la première retouche, puis après on faisait des corrections. Ou sinon, c'est des gens justement avec qui qui étaient un peu plus en ligne avec cette direction-là. Au début, j'ai trouvé ça dur, parce que j'ai fait beaucoup de trucs pas payants, mais que je m'arrangeais pour avoir de la visibilité, ou je me donnais de la visibilité.
Ouais.
Comme ça, je me suis fait connaître, parce que les vrais mandats, j'y avais pas accès. J'avais accès à des plus petits mandats, des mandats pas de second rôle, mais tu sais, des mandats où il y avait moins de budget, où il fallait tout le temps faire plus, prêcher pour que ce soit aussi beau qu'un mandat où tu as le budget pour avoir tout ce qu'il faut, tu sais. Fait que moi, ma façon de me faire connaître quand j'ai commencé, ça a été beaucoup pré-médias sociaux. Tu sais, j'avais un blog. En 2007, j'ai été un des premiers à avoir un blog en photo à Montréal.
Je m'en souviens, j'avais mon blog, puis tu m'avais envoyé ton lien.
Ah oui?
Ouais.
Mais il y a personne qui avait de blog photo, tu sais. Puis des making-up, ça n'existait pas dans ce temps-là. On ne pouvait pas voir comment les autres photographes travaillaient. Puis il y avait comme un mystère à la photo que maintenant, tu peux aller voir Annie Leibovitz, un making-up, puis tu vois tout son éclairage. Fait que, tu sais, tu peux apprendre vraiment en regardant les autres maintenant, mais avant, ça n'existait pas ça. Fait que tu assistes vraiment pour comprendre les setups d'éclairage. Puis je montrais des références, des choses que j'avais. Je parlais de campagnes que je trouvais inspirantes. Puis au début, c'était pour garder contact avec mes collègues, les gens qui j'avais gradué, pour qu'on garde un contact pour les inspirer, puis m'inspirer, puis moi avoir comme une banque d'images à quelque part. Mais j'ai commencé à featurer des photographes de Montréal, puis de là, ils prenaient contact avec moi, puis ils me remerciaient parce qu'il y avait des hits sur leur site à cause du blog. Fait que moi, j'ai commencé à diffuser mon travail comme ça, puis sur d'autres blogs de design, puis Puis en travaillant avec Julien Vallée, Karine, puis GPG, eux, ils avaient tout leur travail de motion, designer, déjà qui commençait à être reconnu, mais ils n'avaient pas nécessairement la finesse d'exécution dans leur travail parce qu'ils le faisaient eux-mêmes. Puis moi, je suis arrivé un peu, on était dans le même building, par hasard, on était dans le même building, puis là, back-à-back, je faisais tous les jobs avec eux autres. On a fait des trucs pour MTV à Londres. Ça a comme aidé un peu à bâtir ma propre notoriété parce que je pouvais montrer que je travaillais sur des choses d'ampleur ailleurs ou à travers ces designers-là qui étaient bien vus.
Ben oui.
Tranquillement, les agences ont commencé à m'appeler puis j'ai pu faire mon propre travail.
Et voilà une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!